Vous écoutez
RMC.
Il est 7h sur RMC. Excellent réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Victimes, parents, militants, des hommes et surtout des femmes. Après la mort de Liana, ils étaient plusieurs milliers hier soir à se rassembler pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice. Moins nombreux et plus vieux, le visage de la France dans 10 ans selon l'INSEE, avec des conséquences, vous l'entendrez, sur le marché du travail. Et les Bleus qui s'envoleront demain pour la Coupe du Monde avec une victoire dans leur valise. 3-1 face à l'Irlande du Nord.
Des milliers de personnes en colère rassemblées hier soir partout en France.
Réunies devant les tribunaux du pays pour dénoncer les manquements de la justice dans le sillage de l'affaire Liana. Ils étaient près de 3000 à Paris, en deux lieux, place Lépine mais aussi place Vendôme. Ce dernier rassemblement sous les fenêtres du ministère de la Justice n'était pourtant pas autorisé. 1200 personnes ont tout de même bravé l'interdit pour interpeller le garde des Sceaux, Philippine Boulay. Il était pour RMC.
Arnaud Gallet, militant pour la protection de l'enfance, ne comprend pas cette interdiction.
Ils veulent pas de bruit devant leur ministère. Et on se dit que c'est devant le ministère de la Justice qu'on doit être, parce que ça dysfonctionne sévèrement.
Ils sont 1200 venus dire leur colère, notamment contre Gérald Darmanin.
Soi-disant, il y est pour rien, il dit qu'il a tout fait. Et c'est pas possible de dire ça, en fait, c'est indécent. Au moment où on est en train de pleurer une enfant, il dit que, soi-disant, tout a été bien fait de lui de son côté, alors qu'on connaît les dysfonctionnements de la justice.
La revue des 70 000 plaintes impliquant des enfants exigées par le ministre de la Justice ne convainc pas Barca du collectif MeToo École.
Et pourquoi est-ce qu'on est à 70 000 dossiers? Ils faisaient quoi avant?
Elle demande plutôt une refonte complète du système.
Faut tout refaire, toute la chaîne de signalement, la façon dont les dossiers sont traités. Faut absolument que ça change, on peut pas attendre des drames arriver tous les jours. Un signalement, c'est déjà un signalement de trop.
Comme de nombreux manifestants, Barca réclame la démission du ministre de la Justice.
Une démission écartée par Gérald Darmanin qui évoque un manque de priorisation des dossiers, rejetant l'idée d'un manque de moyens. Et parmi les manifestants hier, des militants associatifs venus réclamer l'adoption d'une proposition de loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans les tiroirs depuis décembre. C'est ce que réclame aussi la présidente de l'Assemblée nationale qui a décidé de prendre la parole hier, Sonia Gobry, pour interpeller le gouvernement.
Image assez rare, Yael Braun-Pivet en conférence de presse entourée de députés de différents bords politiques pour appeler au sursaut face aux violences sexuelles.
C'est le sujet d'une nation et c'est un sujet qui dépasse largement les clivages politiques. Dans ce temps de campagne présidentielle, n'en faisons pas un affrontement partisan. La situation est trop grave.
Cette proposition de loi initiée par le PS et co-signée par une centaine de parlementaires veut toucher tous les domaines.
La justice, la sécurité, le foyer, les activités sportives, l'éducation, tout doit être pris en compte.
Parmi les mesures, la création d'une juridiction spécialisée en matière de violences sexistes et sexuelles ou encore la mise en place d'un entretien annuel confidentiel pour chaque enfant dès la maternelle avec un professionnel formé au repérage des violences.
Le temps où nos rapports servent à caler des étagères est terminé. Nous devons agir. Le Parlement y est prêt.
Pression de Yael Braun-Pivet sur le Premier ministre. Ce texte contre les violences faites aux femmes et aux enfants somnole dans un tiroir depuis 7 mois. Mais après l'effroi provoqué par la mort de Liana, l'entourage de Sébastien Lecornu fait savoir qu'il veut accélérer son examen.
Et Sébastien Lecornu qui va justement réunir ses ministres ce matin sur la protection de l'enfance avec sur la table de nouvelles mesures législatives visant à enrichir ce projet de loi.
La réponse politique est-elle à la hauteur? Faut-il changer la loi? Deux invités sur RMC ce matin à 7h40, une députée socialiste qui présente l'une de ces lois contre les violences sexuelles et sexistes. Et puis à 8h30, mon invité, ce sera Laurent Wauquiez des Républicains.
Et ce matin, on n'en sait plus sur les conditions de détention de Jérôme Barella, principal suspect dans cette affaire. Liana écrouée dans une prison du sud de la France, prochainement placée à l'isolement sous la vigilance du personnel pénitentiaire pour éviter un suicide. Notez que ses deux filles, elles, ont été déscolarisées. Patrick Bruel, visé par deux nouvelles plaintes déposées fin mai et début juin pour des faits de viol. Deux autres devraient l'être dans les jours à venir et c'est pour d'autres procédures qu'il est toujours entendu ce matin en garde à vue, auditionné pour des faits de viol, tentative de viol et agression sexuelle sur 13 victimes présumées. Un soulagement pour Flavie Flamand, elle aussi a porté plainte contre le chanteur de 67 ans.
Comme toute plaignante, oui, j'attends effectivement d'être entendue. Je ne doute pas d'ailleurs que je serai entendue par un juge d'instruction. J'attends des nouvelles de la justice, mais je suis soulagée aujourd'hui de voir que ces femmes que l'on n'entendait pas il y a encore 3 semaines et que l'on silenciait d'une certaine façon sont des femmes qui aujourd'hui sont des femmes puissantes devant la justice et qui sauront démontrer les accusations qu'elles ont à l'encontre de Patrick Bruel.
7h05 sur RMC. La question d'un allongement du délai de départ à la retraite revient à la une.
À plus de 67 ans, c'est la recommandation pour 2070 du Conseil d'orientation des retraites qui s'inquiète du vieillissement de la population et de son décroissement à l'horizon 2037 selon les dernières prévisions de l'INSEE. Et à ce rythme, les plus de 65 ans seraient deux fois plus nombreux que les moins de 20 ans d'ici 2070 avec des conséquences à nage au jarre sur le marché du travail.
Oui, notamment en termes de main-d'œuvre, la baisse du nombre d'actifs va aggraver une situation déjà difficile.
On a déjà pas mal de secteurs et de métiers qui sont en tension, hein, parce qu'on n'a pas assez de jeunes dans ces bassins d'emploi qui sont formés ou tout simplement qui sont là.
Maxime Sbahi est économiste et pour lui, il va falloir recruter des travailleurs ailleurs.
L'immigration, ça peut être une partie de la solution, de dire eh ben finalement ces talents-là, on va les chercher à l'étranger, dans des pays où il y a encore de la jeunesse, ce que fait l'Italie ou l'Espagne ou l'Allemagne à grande échelle, hein, qui en fait font venir des actifs de l'étranger parce qu'il leur manque en fait aujourd'hui des bras et des cerveaux pour faire tourner leur économie.
Mais pour attirer des travailleurs, il faut être attractif face à la concurrence des autres pays touchés aussi par ce vieillissement démographique. C'est ce qu'explique le démographe Gilles Pison.
Dans les prochaines années, les pays avancés vont se trouver en compétition. Les immigrants vont choisir les pays les plus attractifs et la France n'est pas dans cette situation.
Et en plus de favoriser l'immigration légale, les deux experts s'accordent, il faut déployer d'autres moyens, comme par exemple une meilleure politique familiale pour aider à booster la natalité.
Premier bras de fer social pour Jean Castex à la tête de la SNCF avec une forte participation attendue demain pour réclamer un moratoire sur l'arrivée de la concurrence. Les quatre syndicats de cheminots appellent à la grève, une première depuis 2004. Comptez un TGV sur trois, un intercité sur deux, de fortes perturbations attendues également en région.
Les Bleus se rassurent avant de s'envoler pour les États-Unis.
Départ demain pour Boston, après leur victoire 3 hier soir à Lille face à l'Irlande du Nord grâce à un homme, Michael Olise, auteur d'un triplé, Florent Germain.
Oui, Michael Olise a réussi à souffler la vedette à Didier Deschamps. Pour la dernière du sélectionneur des Bleus en France, c'est le milieu de terrain du Bayern de Munich qui a brillé et fait vibrer le stade Pierre-Mauroy. Trois buts dont une frappe magnifique. Les supporters français sont sous le charme d'Olise.
Super match de lui.
Je pense qu'il faut qu'il prenne de plus en plus de place dans l'équipe de France et qu'il soit titulaire à chaque match.
Le triplé d'Olise, juste magnifique. Ça va être un joueur à suivre pendant la Coupe du Monde.
Exceptionnel, Olise, je t'aime, t'es trop fort.
Autour des leaders naturels comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Olise devient plus que jamais une arme fatale supplémentaire pour Didier Deschamps.
Non, Michael est rayonnant hein, de par la saison qu'il a réalisée au Bayern. Avec nous aussi, il a fait de très bonnes choses. Il est tellement décisif. En plus de ça, pour un joueur offensif, il a une capacité à faire les efforts qui est assez remarquable.
Olise jouera sa première Coupe du Monde cet été et la France compte sur lui pour que l'aventure dure le plus longtemps possible.
Et en attendant la Coupe du Monde, les États-Unis s'ambiancent pour le basket. Troisième match de la finale NBA cette nuit en présence de Donald Trump. Et ce que vous entendez, c'est le président américain qui a été sifflé au Madison Square Garden. Il était venu assister donc à ce match entre les Knicks de New York et les Spurs de Victor Wembanyama, vainqueur 115 à 111. San Antonio qui revient à 2-1. Pour rappel, il faut 4 victoires pour être sacré champion de NBA.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Et s'il fallait travailler jusqu'à 67 ans et demi, est-ce que vous seriez prêt à travailler jusqu'à plus de 67 ans? C'est la recommandation, dernière recommandation en date du Conseil d'orientation des retraites qui sera présenté jeudi. Bonjour Mickaël Zemmour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste des retraites. Il n'y a pas urgence pour vous. Pas urgence à une nouvelle réforme. C'est votre parti pris, vous nous le direz dans un instant. Et je vous attends, vous, au 32-16. Dites-nous, vous êtes peut-être près de la retraite. Est-ce que vous estimez que c'est envisageable 67 ans et demi? Le 32-16, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Et si le curseur des retraites s'arrêtait finalement à 67 ans et demi? Bonjour Mickaël Zemmour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 et spécialiste des questions des retraites. Dans son rapport, le fameux COR, c'est-à-dire le Conseil d'orientation des retraites, estime que finalement, après avoir suggéré de travailler jusqu'à 66 ans et demi, eh bien, pour préserver l'équilibre du système, il faudrait repousser l'âge de départ. Bon, d'ici 2070, mais à 67 ans et demi. C'est nécessaire, ça?
Non, mais je crois pas que le corps va dire ça. En fait, le Conseil d'orientation des retraites va rendre son rapport seulement jeudi. Et ce qu'on a depuis hier, c'est une fuite dans la presse du rapport. Et en général, le corps ne préconise pas d'âge de la retraite. Donc la seule chose qui est écrite dans le rapport, c'est qu'à l'horizon de 2070, si on équilibrait le système des retraites uniquement avec le levier de l'âge, alors il faudrait porter l'âge de la retraite à 67 ans et demi en 2070. On est au stade de l'hypothèse et qui a peut-être été monté un peu en épingle dans la presse.
Qui est une hypothèse, j'allais dire quasi mécanique, c'est-à-dire que malgré tout, il y a une question, on le voit bien, et c'est d'ailleurs à la une des journaux ce matin, les chiffres des naissances qui sont toujours très mauvais, donc moins de bébés, plus de personnes âgées, mécaniquement, ça veut dire qu'il va falloir payer pour les retraites.
Alors mécaniquement, effectivement, le rapport du corps tient compte du ralentissement de la démographie, qui change pas grand chose jusqu'en 2045. En fait, c'est les bébés qu'on ne fait pas aujourd'hui qui seront moins actifs, moins nombreux à partir de 2045. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, la retraite prendra plus de place dans l'économie. Donc, soit on payera un peu plus pour la retraite, soit la retraite sera un peu moins généreuse, soit on décalera l'âge. Mais la réforme des retraites de 2023, si jamais on ne la touchait pas, elle continue à s'appliquer jusqu'en 2033. C'est-à-dire qu'on atteint 64 ans en 2033. Autant vous dire que 67 ans, c'est pas pour tout de suite.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que vous dites, en fait, il y a trois leviers. Il y a effectivement quelle retraite on perçoit. Bon, elle peut être baissée s'il n'y a plus les moyens de la payer. Quel âge, effectivement, pour partir, donc 66, 67. Et puis, l'autre, le dernier levier, c'est aussi la question de ces cotisations. Moi, je voudrais vous interroger sur les trois grandes propositions politiques à horizon 2027. On sent bien que là, sur les retraites, pour le coup, les propositions sont quand même très clivées. Première proposition, elle est claire, nette et elle n'a pas bougé depuis longtemps. Jean-Luc Mélenchon, pour lui, c'est la retraite à 60 ans. Il reste sur la logique de 60 ans. C'est tenable ?
Ça coûterait cher. Entre les deux, c'est-à-dire entre la réforme de 2023 et la retraite à 60 ans, la première question, je crois, c'est revenir à 62 ans. C'est-à-dire revenir sur la réforme de 2023.
Ça, c'est vous ce que vous dites. Jean-Luc Mélenchon, il dit toujours 60 ans. D'ailleurs, Manuel Bompard me l'a confirmé hier matin à 8h30.
Je pense qu'à l'horizon de 5 ans, c'est un gros pari. Alors, on peut réfléchir. Hein. La dernière fois qu'on avait la retraite à 60 ans, c'était en 2012. Donc, c'était pas dans un monde si différent d'aujourd'hui. Mais effectivement, c'est un âge qui est relativement bas. Là où la question me paraît pertinente, par contre, c'est qu'on voit dans les statistiques du monde du travail qu'il y a des personnes à 60 ans qui ne sont plus en emploi, qui sont nombreuses. Et il y a énormément de métiers qu'on pourrait qualifier de pénibles que les personnes ne peuvent plus faire au-delà de 60 ans. Et aujourd'hui, on n'a aucune réponse pour ces personnes-là. Et les dispositifs dits de pénibilité attrapent quelques milliers de personnes, quand on peut estimer que ça se compte en centaines de milliers de personnes, les personnes qui, au-delà de 60 ans, ne peuvent pas travailler.
Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est que 60 ans, bon, ça vous paraît pas très réaliste. En revanche, trouver un système pour que ceux qui ont vraiment besoin de partir à 60 ans puissent le faire.
Oui, je pense que c'est une vraie question.
Deuxième proposition, celle du RN, Jordan Bardella, qui commence à envisager l'idée de supprimer l'âge minimum de départ, c'est-à-dire qu'il ne compterait qu'en annuité et non pas en âge pivot. L'idée, ce serait en fonction du moment où vous avez commencé à travailler, certains partiraient mécaniquement à 60 ans, mais dans l'absolu, il n'y aurait plus d'âge vraiment charnière.
Là, je pense qu'on est plutôt du côté du slogan qu'on a entendu, pas uniquement du côté du RN, et je vois pas très bien ce que ça voudrait dire. Il n'y a pas de système où on peut imaginer partir à la retraite sans âge. Imaginez, vous avez un très très gros salaire et vous pourriez dire à 45 ans, je prends ma retraite. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui existe déjà, c'est que les personnes qui ont fait toute leur durée, par exemple 43 ans, peuvent partir avant l'âge minimal de la retraite, ce qu'on appelle les dispositifs carrière longue. Mais en fait, ça répond pas à la grosse question que tout le monde se pose. À partir de quel âge on a le droit de prendre sa retraite, quelle qu'ait été sa carrière et avec combien? C'est là-dessus qu'il y a eu une mobilisation au moment du passage à la retraite à 64 ans. Et c'est ça la question pour la majorité des personnes. Donc une retraite sans âge, c'est plutôt un slogan. Et sur le fond, ça laisse un peu l'idée que par une solution technique, on va répondre à un problème politique. Le problème politique, c'est à quel âge on veut avoir le droit de partir à la retraite et avec combien?
Avec une dernière proposition, ça c'est celle de la droite classique, qui avance l'idée d'une part de la retraite par capitalisation. Alors ?
Là aussi, il y a un peu de slogan, parce que la retraite par capitalisation, ça existe déjà. Il suffit de prendre le métro pour avoir des pubs pour de la retraite par capitalisation. Il y a plein d'entreprises qui en proposent. Donc si on réfléchit, qu'est-ce qui serait possible ? La rendre obligatoire. Aujourd'hui, elle est facultative. Est-ce que c'est une bonne idée? Je crois pas, parce que quand on regarde les autres pays qui ont des systèmes par capitalisation obligatoire, ça creuse un peu les inégalités. C'est-à-dire qu'il y a plus d'inégalités entre les personnes qui ont des accidents de carrière et les personnes qui sont en emploi. Par contre, il y a un point intéressant, c'est que quand on promeut la retraite par capitalisation, implicitement, ce qu'on dit, c'est que demain, il faudra payer plus pour la retraite, que ça soit dans le système public ou dans le système privé, parce qu'on aura plus de retraités.
Mickaël Zemmour, restez avec nous. Il y a Audrey qui nous appelle de Bordeaux, qui est fonctionnaire territorial. Bonjour Audrey.
Oui, bonjour.
Bonjour Audrey. Sur les retraites, vous répondez emploi.
Moi, je réponds emploi d'abord. C'est bien de faire de toute façon des études et puis de voir comment ça va tourner. Les ajustements, ça c'est sûr, sont nécessaires. On peut pas toujours rester au même niveau. Par contre, je trouve que ça génère une situation hyper anxiogène de dire que on va devoir travailler jusqu'à 67, 68, 69 ans. On voit que à chaque fois ça repousse. Mais avant tout, je pense que le plus important, ce serait déjà de permettre aux gens de trouver un travail, de pouvoir travailler et en vivre, et puis donc avec un salaire décent, avant de nous dire vous allez travailler plus encore.
Si déjà encore tout le monde avait déjà un emploi, d'ailleurs mécaniquement, Mickaël, ça serait plus de cotisations, et donc ça ferait mieux tourner la machine, Mickaël Zemmour.
Très clairement, à chaque fois que le chômage soit réduit, ça améliore les conditions du système de retraite. Et je suis d'accord aussi, le caractère anxiogène de mettre dans le débat des chiffres épouvantails comme 67 ans, c'est pas très sérieux. D'abord, c'est pas vraiment une proposition, c'est pas ce qui se pose à court terme. Et surtout, on a un problème devant nous, c'est que pour l'instant, 64 ans, c'est dans la loi, mais on n'est pas prêt à y aller. Aujourd'hui, le marché du travail, à la fois parce qu'il y a du chômage, notamment chez les seniors, mais aussi parce que les conditions de travail sont difficiles, ça va pas bien se passer pour tout le monde. Donc la première question, c'est comment on fait avec cet âge à 64 ans? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on l'aménage? Est-ce qu'on revient jusqu'à 62 ans? Et donc, effectivement, la question de l'emploi est une partie de la réponse.
Merci beaucoup, Mickaël Zemmour, d'avoir répondu à nos questions. Économiste, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2. Et merci à Audrey pour son témoignage et sa réaction. Il est 7h20 sur RMC. L'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Arthur Chevalier, bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, les juges sont dans le viseur de leur ministre après l'affaire Liana. L'indépendance de la justice, c'est en fait un concept assez récent.
Et dans les faits, c'est même très récent, puisque pendant longtemps, les juges devaient obéir au gouvernement ou on les mettait dehors, tout simplement.
C'est donc Arthur dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. Mon invité à 8h30, ce sera Laurent Wauquiez. Restez bien avec nous, il est 7h20.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
7h21 sur RMC et RMC Story. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Apolline.
Arthur, comme chaque matin avec vous, on remonte le temps. Gérald Darmanin l'a redit hier soir, pas question de démissionner après l'affaire Liana. Le ministre de la Justice qui pointe des défaillances extrêmement graves du système judiciaire et qui promet d'éventuelles sanctions après une enquête qui va durer 15 jours.
Ah oui, Gérald Darmanin hausse le ton et ça ne plaît pas à tout le monde forcément. L'Union syndicale des magistrats lui a répondu hier par une lettre de son président qui s'appelle Ludovic Fria. Pour qui, je cite, il est inadmissible que des magistrats soient désignés responsables et soumis à la vindicte avant les résultats de l'enquête administrative. Entre le gouvernement et la magistrature, Apolline, le torchon brûle.
Entre les politiques et les magistrats, c'est pas vraiment une grande histoire d'amour.
Pas vraiment, non. Pendant longtemps d'ailleurs, les juges ont eu pas mal d'indépendance. Et en fait, tout va changer avec la Révolution française, puisque pour les révolutionnaires, un juge devait se contenter d'appliquer la loi votée par les représentants du peuple, donc en fait par les députés. Interpréter la loi, c'était rigoureusement interdit. Il y avait même une expression très parlante qui résumait toute cette idée. Un juge devait être la bouche de la loi. Donc en clair, oui, au début de notre République, on ne voulait pas de magistrature autonome.
Contrôler la justice, ça va devenir une vraie tradition française.
Mais absolument. Et d'ailleurs, quand il arrive au pouvoir, Napoléon Bonaparte continue cette politique. Il contrôle toutes les nominations des juges. C'est lui qui décidait de leur avancement. Alors une fois qu'on a dit ça, les juges étaient quand même très puissants, très compétents et très respectés, mais être loyal au gouvernement, c'était pas une option, c'était une condition pour être magistrat.
Quand les juges ne voulaient pas obéir, qu'est-ce qu'on faisait ?
Eh bien, on les purgeait, hein, tout simplement, on ne se posait pas de questions. Quand le pouvoir changeait de main, les juges devaient prêter serment sans condition, sinon, eh bien, on les mettait dehors. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les républicains, donc en fait la gauche, hein, si vous préférez, n'étaient pas toujours favorables à l'indépendance de la justice. Prenez les débuts de la Troisième République dans les années 1880, donc il y a un peu plus d'un siècle, on a révoqué presque 700 magistrats d'un coup qui n'étaient soi-disant pas assez républicains.
On a même envisagé de faire élire les juges au suffrage universel.
Et ça a été très sérieux, hein, c'était à peu près la même période, en 1882, l'Assemblée nationale était là encore à gauche, et la légitimité des juges était déjà au cœur des débats. Les députés s'étaient d'ailleurs mis d'accord sur un amendement qui prévoyait l'élection des magistrats au suffrage universel. Alors, sous la pression du gouvernement, ils ont finalement renoncé. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Bien, l'indépendance de la justice est évidemment garantie, mais avec une ambiguïté quand même, puisque l'article de la Constitution qui concerne la justice, c'est l'article 64, et il stipule que c'est le président de la République qui est aussi le garant de l'indépendance de la justice, donc il y a un peu une confusion des genres, ce qui prouve bien que le politique ne veut pas complètement se couper des magistrats.
Merci beaucoup Arthur, Arthur Chevalier, qui chaque matin nous remonte l'histoire et le temps, une chronique à retrouver en podcast à tout moment. Il est 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud, à 8h30 tout à l'heure sur RMC BFM TV. Mon invité, ce sera Laurent Wauquiez, le patron des UDR. Ambiance,
bah oui, très de gauche. De droite, je mets du Sardou pour l'ambiance. Vous savez, moi j'ai failli venir avec un polo rose, avec un pull bleu ciel noué sur les épaules, un short blanc au-dessus du genou et des mocassins à glands sans chaussettes pour vraiment faire tout le délire. Oh, c'est la rubrique déconne, on est là pour déconner. Et vous l'interrogerez sur la guerre. Alors, pas la guerre en Iran ou au Liban, la guerre de la droite. Laurent Wauquiez de LR qui affronte son pire ennemi politique, Bruno Retailleau de LR aussi. Est-ce qu'ils vont réussir à débloquer le détroit de la Louse pour la présidentielle? Laurent Wauquiez va-t-il vous annoncer lui aussi sa candidature à la présidentielle? On ne sait pas, parce que moi, je trouve que ça manque de candidats à droite. En
bah oui, bah
on
oui.
En a que 39. Ouais. C'est comme les punaises de lit. Hein. Tu te réveilles chaque matin, il y en a un peu plus. Ah, un Retailleau. Ah, j'ai un Darmanin. Laurent Wauquiez s'est affiché tout sourire avec Édouard Philippe la semaine dernière. Et alors Mathieu, vous allez me demander, mais pourquoi a-t-il fait ça, Arnaud? Eh bien, vous me connaissez. Je suis une sorte de Alain Duhamel adolescent, je suis une sorte de Arlette Chabot qui sourit, je suis une sorte de Catherine Ney sans la chirurgie. Eh bien, c'est une stratégie pour faire chier Bruno Retailleau.
C'est
parce que c'est marrant. En plus, Laurent Wauquiez l'a rajouté derrière, c'était un pur hasard, je n'ai pas fait exprès. C'est vraiment le mec qui se fait gauler avec sa secrétaire sur les genoux. Vous savez, il a le pantalon sur les chevilles, la cravate sur l'épaule. Et il dit à sa femme, oh là là, c'est pas du tout ce que tu crois.
Non, c'est un
manque de chaise. On manque de chaise. C'est un pur... Mon pantalon me grattait, pur hasard. La clim ne marche plus. Oh. Hein, Christelle.
Oh, oh oui, la clim ne marche plus.
Et il a rajouté derrière, je n'irai pas au meeting de Bruno Retailleau. Je ne veux pas alimenter la machine à perdre.
Et donc, Jamy, comment ça marche une machine à perdre, Jamy?
Eh bien, c'est très simple. Tu prends une grosse machine comme le parti des Républicains et tu veux monter dans les sondages. Mais pour ça, tu utilises Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Jean-François Copé ou même Nathalie Kosciusko-Morizet. Et là... Alors, j'ai lu dans la presse, personne ne veut aller au meeting de Retailleau à part Valérie Pécresse. Mais là, c'est lui qui a dû lui dire, tu sais, t'es pas obligé, hein, vraiment. C'est pas... Alors, si les auditeurs veulent y aller, il reste des places, beaucoup, plein, premier rang. Mais bon, le 20 juin, on sera aussi en pleine Coupe du Monde. Il y a Équateur Curaçao à Kansas City, donc le choix est vite fait. Rendez-vous avec Laurent Wauquiez, c'est à 8h30.
À 8h30, et on vous retrouve, vous, Arnaud, à 8h15, évidemment. Il est 7h27, on se retrouve dans un instant sur RMC, la météo et le journal de 7h30, bien sûr. On reviendra aussi sur le dernier match des Bleus avant la Coupe du Monde, victoire 3-1. Rassurant hier soir. Et puis à 7h50, tiens, vous allez voir, notre voix de gauche, Cécile Duflo, elle a décidé ce matin de rendre un vibrant hommage à Bernadette Chirac. Allez, 7h22, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Quelle réponse après la mort de la petite Liana? Faut-il changer la loi? D'un côté, il y a le gouvernement qui se réunit encore ce matin pour apporter, disent-ils, des mesures utiles et efficaces. Et puis de l'autre, il y a les députés, dont vous, Céline Thiébaud-Martinez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée socialiste de Seine-et-Marne. Vous avez lancé un appel hier aux côtés de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour relancer votre proposition de loi. Elle est déjà prête. Elle était dans un fond de tiroir. Elle dormait depuis quelque temps parce que personne n'avait voulu s'en emparer. Votre proposition de loi, c'est celle qu'on dit intégrale. Intégrale contre les violences sexuelles. Il y a quoi dans votre loi ?
Alors, notre loi, déjà, elle est dite intégrale parce qu'elle embrasse tout un tas de sujets, tout un tas d'environnements dans la société, parce que toute la société est touchée par les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc, dans notre loi, il y a un certain nombre de choses, notamment une réorganisation de notre système judiciaire avec des juridictions spécialisées, des juridictions qui sont dédiées à la lutte contre les violences faites aux enfants et faites aux femmes. Il y a aussi un volet qui est consacré à la protection de l'enfance pour tous les enfants, quels qu'ils soient, victimes de violence, pour les protéger aussi de ces violences. Et puis, il y a un volet sur les violences sexistes et sexuelles au travail, dans l'environnement éducatif, notamment dans l'enseignement supérieur. Un chapitre sur la santé, avec des aspects sur les violences obstétricales et gynécologiques. Donc, on embrasse vraiment un certain nombre de sujets qui concernent le quotidien des enfants et des femmes.
Et c'est d'ailleurs une proposition de loi transpartisane. Elle est soutenue dans différentes familles politiques. Pour qu'elle revienne à la une de l'Assemblée nationale, pour qu'elle soit à l'ordre du jour, ça dépend de qui et de quoi.
Alors aujourd'hui, et c'était le sens de la conférence de presse que nous avons tenue hier à l'Assemblée nationale, notre objectif, c'est qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse être examinée par le Parlement. Et compte tenu de l'importance de cette loi, parce que comme elle est intégrale, elle comporte beaucoup d'articles, 79 articles, ce qui est conséquent pour une proposition de loi, nous souhaitons, et c'était le sens de la conférence de presse d'hier, nous souhaitons que le gouvernement prenne sur son temps législatif, sur son temps parlementaire, qu'il prenne le temps d'inscrire ce texte pour que nous puissions l'examiner dans de bonnes conditions.
Quand vous dites intégrale, est-ce que ça veut dire qu'au fond, on ne peut pas en prendre un morceau ? Il faut la prendre en entier ou pas ? Et dans ce cas-là, quand vous dites qu'elle est importante, elle est aussi importante en termes de budget. Si l'intégralité de votre loi intégrale était mise en œuvre, c'est 2,7 milliards d'euros ?
Tout à fait. Oui, c'est ça. La loi intégrale telle qu'elle est aujourd'hui et avec un certain nombre d'autres mesures proposées par les associations enfantistes et féministes, elle est estimée à 2,7 milliards d'euros. Ce chiffre peut paraître conséquent, mais les violences en France coûtent chaque année plus de 90 milliards d'euros. Et on voit bien avec l'affaire...
C'est-à-dire que si elles ne sont pas traitées...
C'est le cas aujourd'hui. Voilà, c'est l'estimation qui est faite. Et on voit bien avec l'affaire Liana, qui est une affaire... Parmi d'autres, malheureusement, on voit bien que cette affaire, elle a des impacts absolument énormes sur l'ensemble de la société, sur la famille de Liana, bien sûr, mais aussi beaucoup plus largement, parce que il ressort des éléments dont on dispose aujourd'hui que l'auteur présumé n'est pas à sa première agression, n'est pas à cette première affaire, et que s'il y avait eu des traitements, s'il y avait eu une prise en charge beaucoup plus en amont, peut-être en effet que cette affaire n'aurait pas eu lieu. Personne ne peut le dire, mais en tout cas, on peut imaginer que les choses auraient été différentes.
Vous plaidez donc pour cette loi. Mais lorsque l'on regarde ce qui a en effet dysfonctionné, si on reprend les mots du gouvernement, dans l'ensemble de la chaîne à la fois judiciaire mais aussi de signalement, vous parliez de la protection de l'enfance, l'une des petites filles qui dit avoir été victime de ce Jérôme Barella, c'est une petite fille placée à l'aide sociale à l'enfance qui s'est plainte auprès d'ailleurs d'une de ses animatrices au sein du foyer, qui a pris en compte sa parole, qui a fait un signalement, le signalement aussi de l'article 40. Au fond, il y a eu des plaintes, il y a eu des manifestations, il y a eu des paroles, mais rien n'a été suivi de fait. Une loi, très bien, mais est-ce que en attendant, simplement appliquer ce qui devrait exister, c'est-à-dire un signalement est fait, eh bien il doit être suivi de conséquences, ça serait pas déjà pas mal ?
Alors oui, ce serait déjà bien. La situation à laquelle on est confronté, et je pense que c'est en ça que la loi intégrale, elle peut permettre de passer un saut, de sauter le gap, c'est que depuis MeToo, depuis les travaux de la Civise, on a dit aux femmes, on a dit aux enfants victimes de violences, parlez, dites-nous ce qui vous est arrivé, on vous croit, exprimez-vous. Le sujet que nous rencontrons aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que on n'a pas fait à la suite de l'expression des victimes.
Donc ça a été fait, c'est-à-dire qu'il parle, en tout cas voilà, quand on regarde ce qui s'est passé, une petite fille de 7 ans qui a d'abord porté plainte contre Jérôme Barella, plainte qui a été classée sans suite. Une petite fille de 9 ans, Rosa, une autre petite fille, comme je l'évoquais, placée à l'aide sociale à l'enfance, Liana elle-même, qui après une soirée pyjama, s'est plainte à ses parents ou a trouvé étrange, ou en tout cas a exprimer l'idée qu'il avait voulu lui faire des chatouilles. Tout cela, ça a été exprimé. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ?
Oui, c'est ça. Et le sujet aujourd'hui, c'est comment notre système, alors que ce soit le système judiciaire, mais la société de manière générale, est en capacité d'accueillir la parole des victimes et est en capacité de la traiter comme elle se doit. On peut plus être dans une sorte de position de repli ou de protection où on aurait d'un côté la parole d'un auteur présumé et la parole d'un enfant avec cette espèce d'équilibre. Ah, mais oui, mais est-ce que l'un ment, est-ce que l'autre dit la vérité? Et ça, aujourd'hui, on voit bien que ça nous impuissante et on doit admettre l'idée que dès qu'il y a une expression, il faut prendre des mesures.
Merci beaucoup Céline Thiébaud-Martinez d'être venue donc défendre le retour de votre proposition de loi à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Vous êtes députée socialiste de Seine-et-Marne. Cette loi donc dite intégrale pour lutter contre toutes les violences sexuelles et sexistes. Ne manquez pas à 8h30 le face-à-face. Mon invité ce sera justement le patron des députés LR. Est-ce que le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, soutiendra le retour de votre loi? Je lui pose la question bien sûr à 8h30. La voix de gauche est entrée dans ce studio. C'est mardi, c'est Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Une voix de gauche qui ce matin a envie de rendre hommage à une femme de droite.
Oui, à Bernadette Chirac, parce que j'ai beaucoup évolué sur elle et je me dis que si elle était née 50 ans plus tard, c'est peut-être elle qui serait devenue présidente de la République.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h51 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, mais d'abord le bonus, Mathieu Mario, qui bat les records au cinéma.
Le dernier film d'animation Super Mario Galaxy, qui vient de dépasser le milliard de dollars de recettes dans le monde en 7 semaines seulement après sa sortie. C'est le premier film à atteindre ce montant cette année. Le plus célèbre des plombiers, issu du plus célèbre des jeux vidéo et qui, avec ce deuxième film, devient une valeur sûre du cinéma. Il domine le box-office mondial depuis le printemps. En 2023, le premier Mario avait déjà assuré plus d'1,3 milliard de recettes. Alors avec Sonic, avec Minecraft et encore la liste est interminable, Mario confirme que les héros de nos consoles de jeux peuvent rivaliser avec les plus grandes franchises d'Hollywood. On a Mario au cinéma et James Bond en jeu vidéo. Bon, attention, un autre carton en vue, cette fois pour Nintendo toujours. Le tournage du film The Legend of Zelda qui est désormais terminé. Adaptation en prise de vue réelle de l'un des jeux vidéo les plus célèbres de l'histoire, attendu pour le printemps 2027. Un projet attendu par les fans près de 40 ans après le début de la saga Zelda.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
C'est mardi, c'est la voix de gauche, c'est Cécile Duflo. Il est 7h53 sur RMC. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, les obsèques de Bernadette Chirac auront lieu vendredi à Paris. L'ancienne première dame est morte donc vendredi à l'âge de 93 ans. Et vous, la voix de gauche, la femme de gauche, vous voulez rendre hommage à la femme de droite?
Oui, à la femme tout court, parce qu'en fait, j'avais 20 ans en 1995 quand Jacques Chirac a été élu et je me souviens très bien de ce que je pensais. Je la trouvais, pour dire les mots, ringarde. Et puis, je supportais pas bien son côté femme d'eux, toujours un pas derrière, qui jouait le rôle de l'épouse. Je trouvais que c'était déplacé dans les années 90. Et puis, en vieillissant, petit à petit, je me suis rendu compte de ce qu'avait été la vie des femmes de cette génération. Et elle a mené finalement un combat qui épouse le siècle quand elle a épousé son mari en 1956. En fait, au moment où elle signe, elle ne peut plus ouvrir un compte bancaire seule, elle ne peut plus gérer ses biens en propre, elle doit demander son avis, et elle était devenue instantanément Madame Jacques Chirac. Elle n'était même pas Bernadette Chirac, elle était Madame Jacques Chirac.
Elle n'avait même plus de prénom, c'était Madame Jacques Chirac, une femme donc très politique quand même en réalité. D'ailleurs, ils se sont rencontrés sur les bancs de Sciences Po, elle-même faisait des études, qui a toujours dit qu'elle ne pensait pas vraiment à la politique avant de rencontrer son mari.
C'est ça que je trouve pas clair. C'est qu'en fait, elle a fait des études. Clair. Exactement. Moi, je crois qu'en fait, elle était très, très politique. Et que quand elle a fait ses études, elle a fait des études à Sciences Po, des études tournées
c'était
vers le service
public. Femmes, hein.
C'était rare pour l'époque. Elle ne pouvait pas devenir ambassadrice. Hein. La première femme ambassadeur, ce sera 1972. On est en 1950. Donc, les débouchés professionnels étaient très limités. En revanche, ce que pouvaient faire les femmes militantes et engagées qui avaient envie d'un destin, c'était repérer un homme avec un destin et devenir leur femme. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais quand on regarde le parcours de Daniel Mitterrand, celui de Bernadette Chirac, en fait, c'est un peu le même. Et je pense qu'elle était quand même attirée par la politique et que c'est pour ça qu'elle était attirée par Jacques Chirac.
Est-ce que ça veut dire que vous vous dites qu'au fond, à une autre époque, elle aurait pu être présidente.
Bah, quand on regarde son parcours, c'est très intéressant. Elle a été conseillère générale en 1979. Alors, c'était pour, soi-disant, arranger son mari. Mais à l'époque, il y avait 3% de femmes. 3%. C'est la première conseillère générale de Corrèze. Il y a 146 ans. Depuis 146 ans, il y a des élus départementaux. C'est la première femme. Et d'ailleurs, le soir de son élection, c'est même pas elle qui parle. C'est que son mari. Franchement, qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle serre les dents? Maintenant, rétrospectivement, je me dis, si on regarde qui il y avait comme femme politique de sa génération, il y en a eu deux. Edith Cresson et Simone Veil. Deux parcours très différents. Mais c'est tout. Dans un océan d'hommes. Et finalement, elle a montré qu'elle avait du sens politique, elle a montré qu'elle avait ce qu'il fallait pour faire de la politique, de l'instinct, le sens du terrain, de l'ambition et des valeurs. Alors, c'était pas les miennes, c'est certain, mais elle avait de vraies valeurs, elle était très engagée. Et donc, en fait, je pense que profondément, c'était une femme politique.
Alors, en même temps, quand on l'écoute, elle disait que parmi ses valeurs, il y avait le fait d'être une épouse, qu'elle aimait ce rôle d'épouse.
Mais je pense là aussi, quand on regarde, c'est très intéressant de re-regarder les vidéos où il parle d'elle devant elle. Des fois, c'est humiliant. Il dit, ce qu'il faut, c'est qu'une femme de politique, elle se taise. Et on la voit se réfréner. Et donc, c'est pour ça que j'ai développé de l'affection, parce que je me dis, toutes ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont dû ronger leurs freins? Qu'est-ce qu'elles ont dû prendre sur elles? À quel point ça devait être rageant d'être prisonnière de ce statut? Et elle avait pas le choix, en fait. Et elle le dit aussi, il y avait une sorte de discipline inculquée. Dès le plus jeune âge, il y a un film qui est sorti qui s'appelle La Bonne Épouse, qui montrait ces lieux où on éduquait les femmes à être au service de leur mari. Donc, quel est le résultat de tout ça? Et finalement, elle s'en est émancipée d'une certaine manière.
Elle s'en est émancipée, elle est devenue un véritable personnage. Et vous disiez, elle n'avait pas de prénom au début, puisqu'on disait Madame Jacques Chirac. Elle est devenue Bernadette.
Elle est devenue Bernadette avec un seul prénom, comme Ségolène. Il n'y en a pas beaucoup, des femmes qui vivent uniquement par leur prénom. Et c'est intéressant parce qu'on parlait autrefois de la revanche des veuves, de la libération des veuves, c'est-à-dire le fait qu'elles puissent revivre, redevenir autonomes après la mort de leur mari. Là, son mari n'était pas mort, mais après la fin de sa carrière politique, c'est elle qui en a eu une, qui a existé. Et je me dis effectivement que si elle était née 50 ans plus tard, elle n'aurait peut-être pas eu le même destin. Et donc, c'est en hommage à toutes les femmes de cette génération qui ont serré les dents, mais qui étaient comme nous, qui avaient envie de leur propre autonomie, que je pense très fort à elles aujourd'hui.
Merci. Merci Cécile Duflot, la voix de gauche. Demain, ce sera la voix de droite. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Après le journal, Emmanuel Le Chypre, les arrêts maladie continuent leur progression. Vous nous le dites dans un instant, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h59 sur RMC, dans un instant le journal de 8h, mais d'abord la météo. Et Géraldine, il y en a un peu pour tout le monde.
Oui, et il y aura du soleil à la fin de la semaine, du soleil et de la chaleur. Mais en attendant, pour aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un temps variable, avec des averses près de la Manche ce matin. Cet après-midi, on va retrouver ces averses sur tout le nord-ouest, entre la Bretagne, Pays de la Loire, centre, Île-de-France, donc jusqu'aux côtes de la Manche. On aura de la pluie une bonne partie de la journée vers les Pyrénées, et puis ailleurs, nuages, éclaircies, plutôt pas mal de soleil près de la Méditerranée. Pour les températures qui sont en baisse, ça va être sensible cet après-midi. On sera souvent sous les normales de saison avec 16 à 21 degrés pour la moitié nord, 20 à 23 en général au sud, plutôt 24 à 29 au bord de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Très belle journée sur RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'affaire Liana, plus jamais une affaire politique désormais. Une nouvelle réunion aura lieu dans la matinée à Matignon. Le gouvernement veut accélérer, vous allez voir, deux textes de loi sur la protection de l'enfance et sur les violences sexuelles. On va revenir aussi sur ce chiffre ce matin. De plus en plus de médecins pratiquent les dépassements d'honoraires d'après un rapport qui vient d'être publié. Et aussi sur les premières polémiques déjà à la Coupe du Monde de football avant la cérémonie d'ouverture dans deux jours. Un arbitre somalien a été refoulé des États-Unis et l'équipe d'Ouzbékistan a été contrôlée avant un match.
Nouvelle réunion ce matin à Matignon dans la foulée de l'affaire Liana.
Et au lendemain des rassemblements partout en France devant les tribunaux pour pointer du doigt la responsabilité de la justice dans la mort de cette jeune fille de 11 ans seulement. Est-ce un raté? Est-ce un manque de moyens? Écoutez la réponse du ministre de la Justice Gérald Darmanin à ce sujet, c'était hier soir sur BFM TV.
Dans l'affaire Liana, ce n'est pas une question de moyens, c'est pas une question numérique. C'est pas une question de manque d'OPJ ou de manque de procureur de la République. Ça peut arriver ailleurs, bien évidemment. C'est un dysfonctionnement absolument terrifiant.
Autrement dit, ce n'est pas une question ni de loi, ni d'argent. C'est ce que dit en tout cas Gérald Darmanin. Il y a quand même cette nouvelle réunion, donc, ce matin, à Matignon, où le Premier ministre Sébastien Lecornu convoque 5 ministres. Sonia Gobry, du service politique à RMC, avec pour idée de faire avancer des textes sur la protection à l'enfance et sur les violences sexuelles.
Oui, et cette réunion vise à arbitrer de nouvelles mesures utiles et efficaces. Sébastien Lecornu en suggère plusieurs. Alourdir les peines en cas de viol en série, revoir les règles de prescription, mieux informer les victimes tout au long de la procédure ou encore renforcer la motivation des classements sans suite concernant les crimes et délits sexuels. Le Premier ministre veut aussi accélérer l'examen de la proposition de loi soutenue par une centaine de députés de tous bords politiques pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. La présidente de l'Assemblée demande au gouvernement de l'inscrire rapidement à l'agenda du Parlement en juillet ou en septembre. Sébastien Lecornu ne donne pas de date, mais pour lui, la tragique mort de Liana confirme l'urgence. Il promet d'ailleurs que les budgets consacrés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles seront préservés en 2027. Ils devront même, dit-il, être encore plus ciblés sur cette priorité.
Et alors, on a de nouvelles informations ce matin sur le suspect Jérôme Barella dans cette affaire et sur ses conditions de détention, Lucas Laubert.
Oui, Jérôme Barella a été incarcéré dans une prison du sud de la France. Il devrait prochainement être placé à l'isolement pour éviter les contacts avec d'autres détenus qui pourraient le menacer. Comme la plupart des détenus, il peut avoir accès à la télévision et suivre les informations. C'est pour ces différentes raisons que les services pénitentiaires de la prison redoublent de vigilance sur le risque de suicide du suspect. Toujours selon les informations de BFM TV, ses deux filles mineures, dont la plus grande était amie avec Liana, ont été déscolarisées après les événements. Elles sont actuellement avec leur mère.
L'autre information, c'est que son propre frère a également été placé en garde à vue. C'était hier pour des soupçons de viol sur son ex-compagne. Elle avait déposé plainte en 2024 pour des faits remontant aux années 2000. On apprend là ce matin que la garde à vue de Patrick Bruel est prolongée de 24 heures à Paris, là où le chanteur est entendu depuis hier matin pour des faits de violence sexuelle concernant 13 victimes d'après le parquet de Nanterre. Deux nouvelles plaintes ont été déposées hier, en attendant deux autres qui le seront la semaine prochaine. Je vous signale que la liste des candidats à la présidentielle s'allonge encore un petit peu plus ce matin à gauche, puisque désormais le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, est candidat à cette élection. Il vient de l'annoncer, il avait fait parler de lui récemment en se battant contre l'implantation d'un restaurant Master Poulet dans sa ville de banlieue parisienne. Il y a donc ce chiffre ce matin qui va forcément attirer votre attention. De plus en plus de médecins pratiquent les dépassements d'honoraires. Le constat est fait ce matin par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Ils étaient, écoutez bien, 41% à facturer des dépassements d'honoraires en 2010. C'est passé à 56% en 2024. Plus de la moitié donc, surtout chez les spécialistes. Et ça, Cassandre Beau, vous avez interrogé des patients pour RMC, ils l'ont bien remarqué.
C'est le cas de Marie-Laure, 49 ans. À chaque consultation de spécialiste, elle fait chauffer la carte bleue.
Entre 50 et 80 euros. C'est beaucoup pour nous. Moi, ça m'est arrivé de ne pas aller voir ma gynécologue, mais de plutôt venir voir le généraliste, parce qu'il est moins cher.
Le rapport pointe aussi que les dépassements d'honoraires ne sont pas toujours clairement indiqués chez les spécialistes. Hélène, 72 ans, en a fait les frais.
On le découvre quand on arrive sur place. C'est pas normal. Je veux dire, on devrait préciser très clairement, vous voyez, ça devrait être marqué, catégorie 1, catégorie 2. Et puis de quel montant ?
Car des nouveaux spécialistes se sont installés en secteur 2 en 2024, qui autorise les dépassements d'honoraires, contre 58% en 2010. Et il y a une raison à cela, selon Franck De Vulder, membre du conseil et président de la Confédération des syndicats médicaux français.
L'expertise, ça se rémunère à hauteur de ce qu'est une expertise. Les tarifs n'ont pas bougé depuis plus de 30 ans. Et ça explique aujourd'hui pourquoi nombre de jeunes médecins spécialistes s'installent en secteur 2.
Le rapport préconise également d'interdire les dépassements d'honoraires sur les actes de prévention, comme la mammographie.
Il est 8h06 sur RMC, on est au lendemain de la victoire de l'équipe de France de football. 3-1 contre l'Irlande du Nord à Lille. C'était le deuxième et dernier match de préparation à la Coupe du Monde pour les Bleus. Avec ce qu'on retient, le fait marquant de la soirée, c'est ce triplé de Michael Olise que salue le sélectionneur Didier Deschamps.
Michael est rayonnant de par la saison qu'il a réalisée au Bayern. Avec nous aussi, il a fait de très bonnes choses. Ça a mis un petit peu de temps. Au début, les 3, 4, 5 premiers matchs pour qu'il se libère aussi, parce que c'est pas un caractère très expressif, il est plutôt introverti, mais il est très attachant, donc il a tout fait pour être à ce niveau-là, et on aura besoin de lui à son meilleur niveau.
Alors c'est demain que Didier Deschamps et les Bleus vont décoller pour leur camp de base de Boston aux États-Unis, où cette Coupe du Monde fait déjà parler d'elle, avec des polémiques pour des raisons extra-sportives, avec deux faits marquants ces dernières heures. Nicolas Pelletier, vous êtes un des nombreux journalistes d'RMC mobilisés pour ce mondial, et on vous retrouve en direct ce matin de Los Angeles. Alors d'abord, il y a cet arbitre somalien qui a été refoulé à son arrivée aux États-Unis.
Oui, après 14 heures de vol en provenance de Turquie, Omar Abdulkadir Artan, qui disposait d'un passeport diplomatique fourni par son gouvernement, s'avance sur la file réservée à l'aéroport de Miami. Mais le rêve d'être le premier Somalien à arbitrer un mondial va s'arrêter là. Derrière le comptoir, les officiers de l'immigration expliquent à l'arbitre que l'accès aux États-Unis lui est refusé. Le service de protection des frontières expliquera ensuite qu'il y a eu des problèmes à la vérification des documents. La Somalie est l'un des 12 pays dont les citoyens sont interdits de voyage aux États-Unis. Et face à cette décision, la FIFA ne bouge pas. Contactée, l'instance explique ne pas intervenir dans les procédures d'immigration des pays hôtes. Hier soir, le meilleur arbitre africain de 2025 a promis que son moral était bon.
Alors, autre fait marquant, Nicolas Pelletier, c'est l'équipe d'Ouzbékistan qui a eu droit à un contrôle en descendant de son bus avant de jouer un match amical.
Oui, à son arrivée pour un match amical dans un stade de New York, la délégation ouzbèque tombe sur des officiers de sécurité. Les joueurs sont fouillés un par un, les sacs regroupés au sol pour faire passer un chien renifleur d'explosifs. Une sécurité stricte. Plus surprenant, leurs adversaires hollandais n'ont pas eu droit à cette fouille intrusive. En temps normal, dans les grandes compétitions, le pays hôte met tout en place pour éviter ces protocoles de sécurité aux délégations. Ce n'est pas le cas aux États-Unis et ça agace les équipes. Par exemple, plusieurs d'entre elles ont été longuement fouillées lors de leur arrivée sur le sol américain, directement sur le tarmac de l'aéroport.
Voilà, l'équipe d'Ouzbékistan contrôlée, mais pas celle des Pays-Bas. Nicolas Pelletier en direct donc ce matin des États-Unis pour RMC. On va vivre avec vous et tous les journalistes à mobiliser cette Coupe du Monde sur RMC pendant plus d'un mois, que ce soit le sportif et l'extra-sportif. Et alors, autre fait marquant de la nuit, c'était aussi aux États-Unis, c'est Donald Trump qui a été sifflé, hué à New York, où il assistait au troisième match de la finale NBA que les Spurs de San Antonio ont gagné 115-111 contre les Knicks de New York, revenant à 2-1 dans cette série, avec un très bon Victor Wembanyama qui a marqué 32 points dans la nuit.
C'était le journal de Quentin Vigne à 8h08, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, l'absentéisme continue inexorablement d'augmenter en France.
Oui, inexorablement, parce que d'habitude, quand le marché du travail se dégrade, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, l'absentéisme a plutôt tendance à diminuer, parce que bon, les salariés sont un peu plus prudents, ils se disent, je risque de perdre mon travail, donc allez, je vais faire des efforts. Mais aujourd'hui, rien n'y fait. Un salarié du secteur privé sur trois a pris au moins un arrêt de travail en 2025. Ce sont en permanence 4,3% des effets d'une entreprise qui sont absents, c'est 25% de plus qu'en 2019. Il y a eu une rupture avec le Covid en 2020 et depuis, il n'y a pas eu de retour à la situation d'avant. C'est la principale conclusion de cette étude publiée ce matin par Humanis. Alors, il y a à la fois augmentation des arrêts maladie chez les plus de 55 ans, qui travaillent de plus en plus longtemps et pour qui les arrêts sont de plus en plus longs, c'est quasi mécanique. Et puis il y a augmentation chez les jeunes aussi, qui eux ne sont pas arrêtés plus longtemps, mais de plus en plus souvent.
C'est-à-dire des petits arrêts,
oui,
mais beaucoup plus souvent.
Exactement.
Pour quelles raisons les salariés sont de plus en plus absents, donc?
Alors, chez les seniors, c'est le physique qui se fragilise avec l'âge. Les pathologies sont de plus en plus complexes à traiter. Les jeunes, eux, évoquent des difficultés financières accrues, des emplois plus pénibles et une dégradation de leur santé mentale. Santé mentale fragilisée aussi chez les cadres, dont l'absentéisme est deux fois moins élevé que chez les non-cadres, mais qui progresse pourtant fortement. C'est lié à l'hyperconnectivité, c'est lié au télétravail qui a beaucoup perturbé les managers. Santé mentale, c'est de loin le premier motif d'arrêt. Aujourd'hui, presque 4 cas sur 10 d'arrêt maladie, loin devant les troubles musculo-squelettiques et les difficultés croissantes d'accès aux soins psychologiques et psychiatriques n'arrangent rien. Dans les entreprises, il y a une prise de conscience sur la prévention. Ça commence, hein, on dira jamais à quel point faire venir un ostéo dans une boîte, ça coûte pas cher et ça peut provoquer beaucoup d'effets positifs. Par contre, ce qui pêche, c'est souvent la reprise de travail. Et après un arrêt maladie, beaucoup de salariés considèrent qu'ils sont mal accompagnés au moment où ils reviennent. Et ça, c'est encore un point à améliorer énormément.
Merci Emmanuel. Les chiffres du jour, comme chaque jour sur RMC, ça monte ou ça descend?
Sur le diesel, il y a un seuil de résistance manifestement à 2,03 € le litre. Hein, ça fait plusieurs jours qu'on est sur ce niveau de prix. Le samplon 95, il continue gentiment à baisser un petit centime par jour. Là, on est à 1,95 €. Le pétrole, toujours dans son couloir, 90 $ le baril à 93,4 €. Et puis le gaz, ça remonte tout petit peu, le gaz, de jour en jour. Il va falloir commencer à surveiller, 51 € le mégawattheure.
Merci Emmanuel. 8h11 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous dans un instant. Arnaud Demanche revient pour nous faire rire. À 8h30, le face-à-face, ce sera Laurent Wauquiez, mon invité, le patron des députés LR à l'Assemblée nationale. C'est sa première prise de parole depuis la mort de la petite Liana. Est-ce qu'il faut refonder la justice? Est-ce qu'il faut davantage de moyens? Est-ce qu'il faut réorganiser l'État? Les réponses donc de Laurent Wauquiez, ce sera à 8h30. Juste après les dernières infos de la Coupe du Monde, ce sera avec vous, Mathieu Béliard, et ce sera à 8h50.
Et si la France va loin dans la compétition, est-ce qu'on pourra faire la fête sans débordement? On a tous en tête les violences après la victoire du PSG en Ligue des Champions avec le service police-justice d'RMC. On verra s'il faut craindre la même chose pour le Mondial.
La Coupe du Monde à suivre en intégralité sur RMC, radio officielle. Vous ne manquerez rien de l'événement grâce à nos reporters sur le terrain et en studio. Le studio délocalisé à New York, aux abords du stade où aura lieu la finale le 19 juillet. Il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h15 et comme tous les jours, pour notre plus grand bonheur, Arnaud de Manche est avec nous. Salut Arnaud.
Tous les jours pour votre plus grand bonheur.
Mais
c'est
oui.
Vachement gentil.
Mais oui.
C'est trop sympa. Alors Apolline, tiens, avant de commencer, les amis, je voudrais vous tenir au courant de ma petite cuisine interne. Vu l'actu, j'ai changé de co-auteur. J'ai pris Dominique Rizet maintenant.
Oui. Voilà. Non, je suis pas plus sûr.
Patrick Bruel était en garde à vue hier. Alors ça a été une garde à vue compliquée puisque l'inspectrice lui a posé des questions. Alors, oui, c'est un bruit de machine à écrire, l'ambiance. C'est ouais. Un peu désuet, mais la justice manque de moyens.
Tout à fait.
Donc elle lui a demandé, Monsieur Bruel, que répondez-vous à vos accusatrices?
Je sais pas.
Monsieur Bruel?
Pardon, non. Je me noyais dans vos yeux, mademoiselle.
Bon, je dois vous passer les menottes, Monsieur Bruel.
Déjà? Coquine.
Après, il a essayé de soulever la robe de son avocat. Oh, c'est joli ce petit caleçon. Bref, il n'arrête pas. Monsieur Bruel, on va se donner rendez-vous dans 10 ans alors. Hein. Même jour, même heure, mais à la prison de la santé. Ce sera mieux.
Gérard Larcher a annoncé vouloir conserver la présidence du Sénat pour les élections, après les élections sénatoriales de 2026.
Oui, ça y est, enfin! Enfin, c'est le coup d'envoi de l'événement politique de l'année.
RMC, les élections sénatoriales 2026.
Senatorial elections 2026.
La chambre haute restera-t-elle à droite, Apolline, ou basculera-t-elle à droite? Que va devenir Philippe Grosvalet dans la 6e circonscription de Loire-Atlantique? Et Marie-Pierre Mouton,
bah oui,
sera-t-elle réélue dans la Drôme?
Énorme question.
La suppléante de Gilbert Boucher,
oh,
car un mouton a remplacé un boucher. C'est une vanne spéciale sénatorial, qui a fait beaucoup rire sur Public Sénat. Il se la raconte depuis 2 ans à chaque repas et ils sont couchés de rire. Les sénatoriales, j'adore. Les sénatoriales, on dirait un nom de résidence pour retraités.
La résidence des sénatoriales vous accueille dans un cadre privilégié pour passer une retraite heureuse et épanouie.
Oui.
Un vaste jardin en plein cœur de Paris. Des sièges conçus sur mesure pour vos fessiers, des années de siestes paisibles et de déjeuners gourmands, entourés d'amis chauves et en surpoids. C'est ça la vie au sénatorial. Les sénatoriales vous présentent Slam avec Cyril. Bref, la première règle pour être sénateur, vous savez ce que c'est ? Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de 24 ans révolus.
Oui.
Une règle parfaitement respectée.
Ah ouais.
Personne de 24 ans au Sénat, ni même de 34 ans. Ni même de 44 ans. Le profil type du sénateur, c'est environ 132
voilà.
ans. Il faut avoir connu minimum 6 présidents de la République et 15 réformes inefficaces de la justice
voilà.
pour pouvoir être sénateur. En tout cas, Macron, il doit être jaloux de Gérard Larcher.
Comment ça, 3 mandats? Pourquoi lui, il peut et pas moi? Alors que les Français me réclament à corps et à cri. Restons modestes.
Oui.
Restons modestes.
Puis vous vouliez nous reparler de musique.
Oui, après Patrick Bruel, restons dans les naufrages musicaux, puisque
voilà.
David et Jonathan se reforment.
Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'avis.
Et là, je dis, ça suffit, oui. Les dysfonctionnements.
Ça suffit.
J'en appelle à la démission de la ministre de la Culture. Va-t'en, machine.
Oui.
Quel que soit ton nom. Vu qu'on te connaît pas. Et on va pas faire l'effort, dans 6 mois, t'es plus là. Mais alors, c'est qui, en fait? Vous le savez, vous?
Non, d'ailleurs.
Eh ben, non, bah, voilà.
Si, c'est l'ancienne.
C'est l'ancienne
patronne de Versailles. Oui.
On n'a pas son nom, mais.
Catherine Pégard.
Bien,
dis-moi,
je sais
pas.
Ça se voit que vous êtes une professionnelle, ça se voit que vous avez une oreillette.
Oh, non, c'était pas mal.
C'est pas vrai. Et ils s'étaient pas vus depuis 35 ans, et voilà, la belle histoire d'amitié qui renaît un beau matin après un furtif coup d'œil sur les comptes en banque. David appelle Jonathan.
qu'est-ce que tu fais pour les vacances?
Mais je sais pas. On va faire la tournée des ringards des années 80, alors, hein, y a besoin d'oseille. Enfin, je veux dire, notre public nous réclame. Si ça se trouve, c'est Julien Courbet qui les a retrouvés.
Et bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bon, j'avoue, on a un peu merdé sur Xavier Dupont de Ligonnès la semaine dernière. Mais cette semaine, nous avons retrouvé la trace d'un autre duo affreux, machiavélique et sadique, qui a torturé des millions d'oreilles dans les années 80, David et Jonathan E. Alors, Maître Grosfignon, que peut-on faire contre David et Jonathan?
Écoutez, j'en ai rien à foutre, là. J'ai 150 dossiers en attente sur mon bureau. Darmanin me fout une pression. Alors, David et Jonathan...
Les billets pour la tournée sont en vente sur le Minitel 3615 vacances, mais aussi au Megastore des Champs-Élysées. N'hésitez pas. Voilà, vous l'avez dans la tête pour la journée. Apolline, elle va interroger Laurent Wauquiez. Est-ce qu'on part quand même en vacances? On s'est pas trop vu le prix de l'essence.
Oh là là,
courage, Apolline.
Très bon. Si je pouvais faire une interview de face à face
en musique.
C'est vrai qu'en fait, on n'y pense pas assez.
En musique, c'est bien, il y a un truc à
trouver. Ce serait pas mal. Merci beaucoup, Arnaud, qu'on retrouve tous les jours en podcast et en tournée partout en France. À Nice, à Gaillac, au Garric, à Dijon, à Montpellier, à Hyères, ou encore à Morières-les-Avignon. Et c'est un spectacle RMC.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et à 8h20, je voudrais qu'on puisse accueillir Virginie, qui nous appelle d'Uzès dans le Gard. Bonjour Virginie.
Et bonjour à toute l'équipe.
Comment ça va? Vous êtes chef d'entreprise, alors dans quel domaine?
Alors moi, je suis dans le service à la personne.
Ok. Vous avez entendu tout à l'heure Emmanuel Le Chypre, qui dans la chronique Écho disait qu'il y avait de plus en plus d'arrêts maladie, d'absentéisme au travail. Vous le constatez, vous?
Tout à fait. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'embaucher ma première assistante, parce que ça fait 4 ans que j'ai créé.
D'accord.
Donc pour un peu déléguer.
Enfin.
Donc 4 mois de période d'essai, 15 jours après que la période d'essai soit validée, arrêt de travail.
Ah.
Voilà. Et on ne comprend pas le système, c'est que ce n'est pas des arrêts de 15 jours, c'est que les médecins mettent un mois directement. Et
d'accord,
ça fait 4 mois qu'elle a un mois.
Qui est renouvelé à chaque fois.
D'arrêt de travail. Et renouvelé à chaque fois de un mois.
D'accord.
Ce qui impacte bien sûr l'entreprise.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'il y a une... Alors, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est que les personnes plus âgées, à partir de 55 ans, ce sont des arrêts souvent dus à un craquage physique, et que les plus jeunes, c'est plutôt un craquage mental.
Alors, je ne sais pas, là, nous, c'était du télétravail, donc les horaires, c'est 9h-16h, pas de travail le mercredi.
Oh,
donc,
c'est assez cool.
Je ne sais pas où peut être le craquage mental dans ces conditions-là. Moi, ouais, je trouve qu'il y a de l'abus quand même sur les médecins qui mettent des prolongations d'un mois. Après, c'est plus un chantage en disant on fait une rupture conventionnelle ou alors...
Mais au bout de 15 jours de travail?
Oui, tout à fait.
Enfin, 15 jours plus les 4 mois d'arrêt d'essai.
Voilà, tout à fait.
Donc là, vous êtes à bout, vous. C'est vous qui voudriez vous mettre en arrêt, là.
C'est ça. On pense jamais à la santé mentale des petits dirigeants. On parle pas des dirigeants du 440. On parle des petites TPE comme nous, où on essaye d'embaucher, de créer de l'emploi sur notre secteur. Et quand enfin on peut déléguer, on a ce genre de personnages qui arrivent. Et on se dit, on n'a plus envie d'embaucher, en fait.
Donc,
on
a plus envie. Super décourageant.
Le système est... Ah oui, super décourageant. Et on pense ni à la santé du dirigeant, mais surtout, je ne parle pas que des salariés en arrêt de travail, je parle aussi des cotisations URSSAF, qu'on a le même cotisation URSSAF que des grands patrons du 40. Donc on est en train de tuer les petites entreprises en fait en France.
Mais merci beaucoup. Merci Virginie pour votre témoignage ce matin. Virginie, chef d'entreprise dans le Gard à Uzès. Il est 8h23. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est Laurent Wauquiez. Ça se passe sur RMC BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29, vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Wauquiez.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le député de Haute-Loire et président du groupe Droite Républicaine, le groupe LR à l'Assemblée Nationale. De très nombreuses questions à vous poser. Et d'abord, évidemment, après la mort de Liana et la série en chaîne de dysfonctionnements, de ratés, Que faire? La réponse politique. Le Premier ministre dit qu'il réunira à nouveau ce matin les ministres concernés. Gérald Darmanin, Laurent Nunez, la ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, la ministre de l'Égalité Femmes-Hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire?
D'abord, je voudrais juste dire quelque chose. Ça me rappelle des souvenirs qui sont très douloureux. Chez moi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait eu un drame qui était exactement la même chose. À l'époque, les mêmes gesticulations. Sur une gamine qui devait avoir 13 ans au collège Chevenol, qui avait été torturée, violée, brûlée par un assassin, un prédateur, qui avait été mis dans un internat mixte, alors même qu'il y avait déjà eu des plaintes de viol contre mineurs contre lui. Et j'ai l'impression de revivre la même chose.
Vous parlez d'Agnès ?
Oui, bien sûr. Agnès au collège Chevenol, chez moi en Haute-Loire, au Chambon-sur-Lignon. Le même drame. Les mêmes visages de famille abasourdies, la même colère, les mêmes marches blanches, le même dysfonctionnement de la justice. Et je me dis, mais ça se reproduit, on a la même chose. À quel moment est-ce qu'on prend la mesure de ce à quoi on a à faire face? Parce que pour répondre très simplement et clairement à votre question, je crains que ce soit pas un fait divers, c'est pas un acte isolé. Il va pas seulement suffire de chercher la responsabilité de tel politique, tel procureur, tel personnel de gendarmerie. On a affaire pour moi à la faillite globale de la justice française. Ça remonte à loin. On en a aujourd'hui l'aboutissement. On a un système de justice qui ne marche plus, qui ne protège plus, qui ne protège pas nos enfants. Et donc si on veut répondre, c'est pas de la gesticulation qu'il va falloir. C'est un changement très profond de toute notre approche de politique pénale.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces réunions qui s'enchaînent, ces conférences de presse à l'Assemblée nationale, à Matignon, c'est de la gesticulation?
Non, ça veut dire, je pense que quand le garde des Sceaux dit clairement, c'est pas juste des responsabilités à établir sur une affaire, mais qui pose le problème global de l'ensemble de la politique pénale, je pense qu'il a raison. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a une justice extrêmement lente en France. Et tout se tient. Quand on a une justice qui n'est pas capable de condamner dès le premier délit. Quand on a une justice qui n'est pas capable de réagir aux casseurs. C'était quand même le débat de la semaine dernière.
Il y a une semaine, quasiment jour pour jour, on était dans les premières comparutions immédiates après les casses autour de la victoire du PSG.
Et avec le retour de ce qui s'était passé il y a un an, souvenez-vous, 500 gardes à vue, même pas 10 personnes qui vont en prison. Quand on a une justice qui n'est pas capable d'expulser des délinquants étrangers. Quand on a une justice qui n'est plus capable de mettre hors d'état de nuire des prédateurs sexuels, on a un problème majeur. C'est que la justice, pour qu'elle marche, il y a deux conditions qui sont simples, je pense, mais qui sont très difficiles à mettre en œuvre. La première, il faut que ce soit rapide. En moyenne, au Royaume-Uni, on juge 3 fois plus vite et il y a 50% de places de prison de plus. En France, notre justice est beaucoup trop lente. 4 ans. 4 ans, vous vous rendez compte. 4 ans en moyenne. Et c'est comme ça qu'on récupère cette situation. Puis deux, la deuxième chose, c'est que comme il n'y a pas de sanction dès le premier délit, comme on a perdu le sens d'une politique pénale qui est quand même de mieux sanctionner pour pouvoir mieux protéger, eh bien à l'arrivée, on est submergé par la violence, par la délinquance, par les prédateurs, parce qu'il n'y a plus de peur et donc il n'y a plus de respect.
Donc la question de la sanction pénale, pour vous, est liée à tout le reste ?
Pour moi, tout se tient. Sinon, vous ne comprenez pas. Je pense que ceux qui nous écoutent et qui se disent « Mais comment c'est possible ?» 70 000 plaintes qui mettent en question des mineurs, qui sont en cours d'instruction, 70 000 en France, comment c'est possible ? Malheureusement, la réponse, elle est là. C'est que comme notre justice est trop lente, comme elle n'arrive plus à endiguer le flot de violence, elle est submergée par des faits qui se multiplient et face auxquels on ne pose pas dès le début des sanctions.
Gérald Darmanin qui a donc annoncé ce dimanche en effet qu'il allait demander aux procureurs généraux de reprendre, je cite, l'intégralité des plaintes qui touchent des enfants, soit environ, dit-il, 70 000 dossiers d'ici au 14 juillet. Il faut le faire quand même.
Évidemment qu'il faut le faire. Mais la réponse, elle ne sera pas là seulement. C'est-à-dire la réponse, c'est plus globalement de se poser sur toute notre politique pénale. Et ce que je veux dire aussi à ceux qui nous écoutent ce matin, c'est possible. C'est-à-dire d'autres pays l'ont fait. Je citais l'exemple du Royaume-Uni qui a revu sa politique pénale, qui a essayé de faire en sorte que la procédure soit plus rapide, qu'elle soit plus efficace. On peut citer l'exemple des Pays-Bas.
Peines plus courtes.
Le principe aux Pays-Bas, c'est qu'on agit, vous le rappelez avec raison, dès le début. Nous, en France, on attend le multirécidiviste. Et donc, on est submergé par la délinquance.
Mais qui va faire ça? C'est-à-dire que ce que je trouve quand même très frappant, c'est qu'au fond, ce que vous dites, c'est ce que déjà Gérald Darmanin disait il y a un an. Reprenons l'exemple du PSG, il y a un an quasiment, jour pour jour, il y avait les mêmes émeutes et il y avait à peu près la même proportion de personnes qui étaient arrêtées. Et à ce moment-là, Gérald Darmanin avait dit « c'est un échec, notre justice ne fonctionne pas suffisamment bien » et il avait proposé parmi les pistes de réflexion l'idée de supprimer le sursis. C'est-à-dire qu'en fait, une peine prononcée, elle est tout de suite appliquée. Elle n'est pas une menace pour si jamais un jour il y a à nouveau quoi que ce soit. Un an après, il est ministre de la Justice. C'est pas quelqu'un qui dit ça loin. Il est en ce moment même au ministère de la Justice. Et c'est encore une piste de réflexion. Je vous écoute tous et j'ai quand même l'impression que tout ça est très largement théorique. Quand est-ce que ça atterrit dans le monde réel ?
Mais si on veut que ça atterrisse dans le monde réel, il y a une première condition qui est juste la première de toutes les autres. Il faut faire des places de prison. Parce que tant qu'on ne fera pas de places de prison, tous les discours qui seront tenus ne serviront à rien. Notre problème, c'est qu'on n'est pas capable d'emprisonner. Et donc on a une politique pénale qui a été faite à rebours en fonction du nombre de places de prison qu'on a. Et donc l'impératif, mais ça fait 10 ans que je me bats en le répétant, c'est de construire des places de prison. J'ai un député dans mon groupe qui propose de construire des prisons chez lui, une prison chez lui, depuis plus de 10 ans.
Et pourquoi ça se fait pas ?
Bonne question. J'ai interpellé l'administration. On a essayé de le soutenir. Il se bat. Il essaie de s'exprimer
dessus.
C'est quoi?
Non, mais c'est-à-dire, c'est des blocages. C'est quoi? C'est d'urbanisme? C'est les associations de riverains? C'est la justice? C'est quoi? C'est des moyens?
C'est globalement, je pense, un système qui est beaucoup trop lourd. Pour les Jeux Olympiques, on est capable de mettre en place des procédures ultra rapides pour faire des équipements sportifs. Il faut faire la même chose pour construire des places de prison. Et donc, si on reprend dans le bon sens, pour le dire très clairement, des places de prison. De une refonte totale de notre politique pénale et pas juste quelques têtes d'épingle. On a besoin de tout remettre à plat. Et sans doute que comme l'éducation, ça devra être pour moi un des grands débats de 2027.
Alors l'éducation, la justice, comment est-ce qu'on remet à plat? Quand vous écoutez par exemple Bruno Retailleau, le patron des Républicains, il dit qu'il veut créer, je cite, une cour disciplinaire de la magistrature avec cette question qui est celle de la sanction des juges et de la responsabilité des juges. Question aussi là-dessus, est-ce que à vos yeux les magistrats doivent rendre des comptes?
C'est un débat que Bruno Retailleau a raison de poser. Quand il y a un pouvoir, quand il y a une responsabilité, en face il faut qu'il y ait des contreparties. Et donc qu'il y ait évidemment la possibilité que quand il y a des dysfonctionnements lourds, la responsabilité des juges soit mise en cause, pour moi c'est une évidence, ça ne doit pas
poser
problème.
Donc il faut des sanctions.
Mais je vais quand même aller au cœur du sujet. Ce qu'attendent les Français, c'est pas de mieux sanctionner ou de plus sanctionner des juges qui font des fautes, c'est qu'on ait un système de justice qui fasse moins de fautes, qui fasse moins d'erreurs judiciaires, qui protège. Et donc si vous m'interrogez ce matin sur ma priorité, moi ma priorité c'est une politique pénale plus rapide et qui sanctionne mieux. C'est ça ce que je pense être le cœur de notre débat.
Avec une autre question qui est la question des violences en particulier vis-à-vis des femmes et des enfants. Cette proposition de loi dite intégrale, qui est une proposition de loi transpartisane, qui est portée plutôt par une députée socialiste, mais qui hier a été présentée aussi par la présidente de l'Assemblée nationale, qui voudrait que ça revienne à l'ordre du jour. Est-ce que vous estimez que cette loi, avec 140 propositions très vastes, très larges, elle doit être à nouveau examinée ?
Vous l'avez dit, c'est une loi qui est portée par une députée socialiste. Je n'aurai aucun problème à la soutenir. Et mon groupe sera impliqué, si jamais elle vient à l'Assemblée nationale, pour pouvoir l'enrichir et l'améliorer. Mais je redis ce que je vous dis ce matin. Tout se tient. C'est la question de la protection de nos enfants. C'est la question de la lutte contre la délinquance des femmes, contre la délinquance contre les femmes, bien sûr. C'est une évidence. Mais c'est plus global. C'est toute notre politique pénale qui est par terre.
J'ai bien compris. Pour vous, c'est la question de, en gros, du début, c'est-à-dire ministère plutôt là de l'intérieur, jusqu'au bout, c'est-à-dire la question de la sanction et de l'application des peines.
Pourquoi je vous le dis ? Parce que je suis convaincu qu'on peut y arriver. Je suis convaincu que ça peut se redresser. Je suis convaincu qu'on peut remettre de l'ordre dans notre pays. Mais à une condition, c'est qu'on pose les beaux débats, les bons débats. Et ma crainte, c'est que, comme toujours en France, quand il y a un drame, on a tendance à faire des réponses qui sont trop petites, trop limitées, qui se situent pas à la hauteur de l'enjeu. La hauteur de l'enjeu, c'est bien ça, c'est notre justice aujourd'hui est en faillite. Il faut retrouver une justice qui sanctionne.
Est-ce que c'est une question de moyens ou est-ce que c'est une question de philosophie ?
Les moyens sont nécessaires, il en faut plus et ça ne sera pas suffisant. S'il n'y a pas cette volonté de sanctionner et cette capacité d'emprisonner, ça ne suffira pas.
Pour que ça passe, il faut gagner. Et il faut être au pouvoir. Vous avez dit la machine à perdre est enclenchée, mais qui l'alimente ? Vous avez l'air tous de parler en votre nom propre. Il n'y a pas de collectif quand je vous entends, vous la droite.
J'essaye en tout cas, alors peut-être que j'y arrive pas pour l'instant, Mais j'essaye de parler à tout le monde. C'était pas ma spécialité, hein.
Enfin, vous avez tous dit que vous aviez changé, alors un de plus. Non, mais je veux dire, franchement, vous n'êtes pas le premier
C'est gentil, Madame de Malherbe, de commencer à me désespérer alors que ça commence.
Vous êtes pas le premier à me dire ce matin, mais regardez comme j'ai changé, regardez comme je suis amélioré. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Bon.
C'est pas du tout ce que je vous ai dit. C'était un léger petit trait d'autodérision qui de temps en temps peut être salutaire en politique.
Donc maintenant, vous êtes pour le collectif. Ok.
Non, c'est pas ça. C'est juste, je regarde. C'est quoi la situation? Division partout. Multiplication des candidatures. Vous avez vu Mélenchon ce week-end?
Il dit, chez nous c'est carré, et en effet on peut dire que c'était carré. Hein. Tout le monde derrière lui, sur la scène.
Est-ce que c'était une démonstration de force?
Oui.
Oui. Est-ce qu'à l'arrivée, Jean-Luc Mélenchon sera beaucoup plus haut que ce que tout le monde veut croire? C'est une évidence. Est-ce que potentiellement, il peut être qualifié au second tour? Je le crois, je le dis depuis de nombreuses semaines. Et donc, la droite en étant divisée, prendrait une immense responsabilité de permettre la qualification de Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle. Ce que beaucoup de politiques à droite semblent totalement ignorer et ce que beaucoup de Français redoutent. Donc oui, je me bats. Alors, vous avez raison de me le dire. Très bien, vous m'expliquez que vous avez changé. Je me bats pour faire en sorte qu'on soit rassemblés.
C'est-à-dire que j'essaie... Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous battre surtout pour que Bruno Retailleau soit pas le candidat de la droite? Parce que c'est pas surtout ça l'objectif en vrai.
Je me bats pour que tout le monde soit rassemblé et même si vous essayez de m'emmener du côté de mes vieux démons, je n'irai pas là-dedans. Je considère que je veux parler à Bruno Retailleau, je veux parler à Édouard Philippe, je parle à Gérald Darmanin, je parle à Sarah Knafo. J'essaye de mettre tout le monde ensemble et de leur dire très simplement, on a une responsabilité, on ne peut pas être chacun avec des candidatures isolées qui aboutiront à ce que la droite soit disqualifiée dès le premier tour. Parce que derrière, il y a cette menace immense de Jean-Luc Mélenchon.
Alors on fait comment? On fait comment? C'est-à-dire que vous faites comment? Quelle est la recette? Est-ce que c'est une histoire de sondage? On regarde, on dit au 1er septembre, on voit lequel est le plus haut. Est-ce que c'est une histoire de primaire? Et dans ces cas-là, avec qui? Vous évoquez Sarah Knafo, mais parce que Sarah Knafo, ça sonne pas comme Éric Zemmour. Mais la vérité, c'est qu'elle l'a déjà dit, elle n'est pas sur la présidentielle, ce sera Éric Zemmour. Donc est-ce que ça va de Éric Zemmour, parce qu'on va dire les choses comme elles sont, c'est pas Sarah Knafo, est-ce que ça va de Éric Zemmour à, je sais pas, Gabriel Attal?
Alors d'abord, justement, ce que j'essaye de faire, c'est de pas tomber dans votre piège, pardon. Votre piège, c'est celui de la droite, c'est de raisonner à partir de personne. Et chacun s'excommunie, et tout le monde dit, je peux pas travailler qu'un tel, parce qu'il m'a trahi il y a 5 ans, ou un tel, parce qu'il a pas les bonnes idées. J'essaye de dire à tout le monde, commençons par travailler sur le fond. Qu'est-ce qu'on veut porter ensemble? Moins d'immigration? Moins de dépenses publiques? Moins d'assistanat? Plus de pouvoir d'achat? Plus de sécurité? Plus d'économie? Bon. Qui est-ce qui est d'accord avec ça?
Le RN?
Non.
Voici.
Non, pardon, Madame de Malherbe, ce que vous dites est faux. Interrogez Madame Marine Le Pen. Demandez-lui si elle est de droite. Posez-lui la question de savoir est-ce qu'elle est prête à faire des économies sur la dépense publique.
Non, vous allez me dire, en effet, qu'il y a un désaccord sur les questions économiques.
Ah bon, et pour vous, c'est rien l'économie? Le pouvoir d'achat de ceux qui nous écoutent?
C'est pas rien, mais jusqu'à présent, le RN était votre adversaire sur d'autres questions que celle-là.
Mais moi, j'ai toujours eu la même réponse. Je n'ai jamais changé à votre micro. Je vous ai toujours dit, si on veut redresser le pays, il faut arrêter l'assistanat. Il faut faire des économies sur la dépense publique. Il faut revaloriser le travail. J'ai toujours eu le même discours.
Ok, et alors donc, partons de ce principe-là.
Et donc, on commence par dire...
Comment vous organisez la sélection du candidat?
Attendez, n'allez pas... parce que en fonçant comme ça, comme un chien fou, c'est comme ça précisément qu'on n'y arrive pas. J'essaye de poser les choses dans l'ordre. D'abord, un programme commun de la droite. Comment est-ce que la droite peut partager des idées? Ensuite, faire discuter tout le monde ensemble. Moi, je veux qu'on puisse mettre dans une même pièce des personnalités de sensibilité différentes de droite qui ne se parlent plus. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et ensuite, à l'automne, il faut trouver un système pour arbitrer tout le monde. Moi, vous savez, celui pour lequel je plaide, je considère que seule une primaire peut permettre de le faire. Mais si d'autres ont de meilleures idées, je tiens pas à la primaire en tant que telle, je veux juste qu'on trouve un système qui permette de mettre tout le monde ensemble. Et ça doit se faire à l'automne. Et si ça ne se fait pas à l'automne, je pense que ce sera trop tard.
Est-ce que Renaissance, puisque on ne va pas dire les noms, puisque vous dites le problème n'est pas des personnes mais les idées, est-ce que les idées portées par le parti Renaissance ont vocation pour vous à faire partie de cette grande famille de la droite?
Si elles sont à droite, oui. Si ça consiste à dire l'immigration, peut-être un peu, on peut continuer, on va pas complètement être ferme, non. Si on est clair sur le fait de dire on baisse la dépense publique pour rendre l'argent aux Français, comme ce que j'ai fait dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est oui.
Gérald Darmanin sur l'immigration, pour prendre cet exemple-là, il dit il faut faire 3 ans de pause. Gabriel Attal, lui, il dit il faut se concentrer sur l'immigration de travail, donc stopper baisser en tout cas le regroupement familial et l'immigration plus familiale. Entre ces deux-là, le programme, enfin la proposition de Gérald Darmanin a davantage vos faveurs.
Bah oui, moi vous me connaissez sur l'immigration, je suis favorable à ce qu'on soit très ferme. Il faut évidemment arrêter l'immigration hors de contrôle. Mais je suis pas fermé. C'est-à-dire que pour que la droite revive, il faut qu'elle accepte la stimulation d'idées et le débat. Si jamais je viens avec votre plateau et que je dis « moi je suis capable de travailler qu'avec des gens qui ont exactement les mêmes idées que moi », on ne s'en sortira jamais. Donc le principe, c'est de retrouver de la diversité. Il y a une droite qui est libérale, il y a une droite qui est gaulliste, il y a une droite qui est plus sensible au monde du travail, c'est la mienne, il y a une droite qui est très attentive au sujet économique. Voilà, ça fait partie de la richesse d'une famille. Et au fond, depuis 15 ans, elle est partie en puzzle, pour reprendre l'expression des tontons flingueurs. Il faut la remettre ensemble. Et c'est ce que j'essaye de faire.
Votre vocation, c'est de réorganiser ça. C'est-à-dire que vous ne vous rajouterez pas à la liste des prétendants.
C'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que je ne me rajoute pas à cette liste de prétendants. J'essaye de contribuer au rassemblement. J'essaye aussi de ne pas être emprisonné dans un camp.
Parce que vous n'iriez pas au meeting. Vous avez dit que vous n'iriez pas au meeting de Bruno Retailleau le 20 mai prochain.
Je ne sais plus quand c'est, en juin ou. Pas très aimable.
Pardon, mais comme il y a des meetings en ce moment, absolument partout, tout le temps, et en même temps, c'est vrai que c'est le 20 juin.
C'est bien d'avoir une oreillette. Moi, j'en ai pas.
Je vous avoue que là-dessus, je ne savais plus. Je reconnais moi aussi mes torts.
Il n'y a pas de problème. Vous avez changé vous aussi.
Oui, beaucoup.
Et donc, juste, qu'est-ce que je veux dire par là?
Pourquoi vous n'y serez pas?
Je ne participerai pas à des actions de campagne qui vont nourrir la division avant qu'on soit tous rassemblés. Donc je n'irai pas au meeting de Bruno Retailleau, je ne participerai pas plus au meeting d'Édouard Philippe, je n'ai pas fait d'action de campagne avec David Lisnard, et pourtant c'est un ami, parce que ce que j'essaye, c'est que je pense qu'on aura besoin de quelques personnalités...
Tout cela pourrait être légitime. Oui. Gérald Darmanin y compris, puisque c'est vous-même qui l'avez cité.
Pour moi, le candidat légitime des Républicains, c'est Bruno Retailleau, je l'ai dit. Mais ce que je cherche, c'est le candidat de la droite. Pas de tel ou tel parti, pas de telle ou telle chapelle. Ce qu'il faut, c'est mettre tout le monde ensemble. Et c'est pour ça que ce dont on a besoin, c'est qu'il y ait quelques personnalités qui soient pas prises dans les camps, qui soient capables d'échanger, de discuter, de faire un peu le lien. J'essaye de le faire, il y en a d'autres qui le font. Gérard Larcher, par exemple. Gérald Darmanin aussi, contribue à ce qu'on discute les uns avec les autres. On essaye de porter ça ensemble.
Laurent Wauquiez, vous avez dit, je crois, cette phrase, le plus grand danger aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous estimez que le plus grand danger, c'est Jean-Luc Mélenchon ou c'est Marine Le Pen?
Je le redis à votre micro, le plus grand danger politique pour la République, c'est Jean-Luc Mélenchon. Quelqu'un qui considère que les policiers sont responsables de la violence, qui plaide pour la destruction de ce qu'est la laïcité, le lien républicain. Vous avez entendu les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la ruralité?
Sur le fait que, alors j'ai pas entendu l'intégralité de l'interview, donc je ne voudrais pas tronquer, mais les mots que j'ai entendus en effet étaient sur le fait que dans le monde rural, on se regrouperait uniquement entre personnes qui pensent la même chose, alors que dans le monde plus urbain, on aurait des discussions avec des gens plus divers.
Moi je viens, mon département c'est un département rural. Les propos de Jean-Luc Mélenchon étaient hallucinants de mépris. Et surtout, ils sont révélateurs pour moi de ce qu'est la menace de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il oppose les Français les uns aux autres. Il oppose les communautés à la République, il oppose l'enfermement dans le sectarisme par rapport
au lien républicain. Vous ne mettez donc pas de signe égal entre LFI et RN?
Pour moi, je le dis très clairement sur votre plateau, et je l'ai toujours dit, Jean-Luc Mélenchon, c'est le principal danger politique pour notre pays.
S'il y a RN, LFI au second tour, ce que vous tentez d'éviter, vous choisirez donc le RN? En toute logique.
Madame Apolline de Malherbe, si j'ai un vote plateau, c'est pas pour considérer déjà qu'on a perdu. Si je viens ici, c'est pour refuser la division qui aboutirait à la disqualification de la droite au premier tour de la présidentielle. Et précisément ce que je ne veux pas, c'est que les Français n'aient que le choix au second tour entre le RN et Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je me bats.
Merci,
c'est le sens de mon combat.
Laurent Wauquiez, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Député de Haute-Loire et président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée Nationale. Vous êtes bien sûr RMC BFM TV.
Merci Apolline. Et dans un instant, sur RMC, les dernières infos de la Coupe du Monde. Peut-on encore faire la fête en France sans débordement? On se pose la question ce matin. Et puis, est-ce que vous savez combien de joueurs nés en France vont participer au Mondial? La réponse dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
L'ouverture du Mondial après-demain. Mais sur RMC, ça a déjà commencé.
RMC, Coupe du Monde de football, FIFA 2026.
Coup d'envoi dans deux jours.
Et bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu.
Dans un instant, vous allez nous dire que la France a déjà gagné la Coupe du Monde. Restez bien sur RMC. Alors avant cela, je me tourne vers vous. Julie Brault, bonjour Julie.
Bonjour.
Alors justement, est-ce qu'on peut encore faire la fête en France après un événement sportif? Imaginons qu'on gagne. On est 10 jours après les mauvais souvenirs de la victoire du PSG en Ligue des Champions. On se projette sur d'éventuelles futures célébrations. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Rester chez vous? Sortir malgré tout? Julie, vous avez posé la question aux fans de foot.
Oui, ce qui est sûr, c'est que les violences en marge de la finale PSG-Arsenal sont encore dans toutes les têtes. Souvenez-vous, quelques 250 personnes placées en garde à vue rien qu'à Paris et plusieurs dizaines d'entre elles déjà condamnées en début de semaine dernière pour des violences ou des dégradations, des débordements qui ont refroidi Imane, cette mère de famille habitante de l'Essonne.
On supportera depuis chez nous. Moi, je laisserai pas mes enfants ou mes neveux sortir. Eux, ce sont de jeunes garçons, donc ils ont plus de risques d'être confrontés à des conflits, à des contrôles, à des choses de ce type-là. Donc on préfère les préserver, les protéger, les garder auprès de nous. Et puis on peut parfaitement partager cette émotion, cet enthousiasme depuis nos salons, nos jardins, nos maisons. Le foot, ça reste un sport. Et le sport n'est censé être fédérateur et non destructeur.
Mais alors pour d'autres, Julie, pas question de se priver. La fête, ce sera, quoi qu'il arrive, au cœur de Paris.
Oui, notamment pour les supporters chevronnés. Yann est membre de l'assaut de supporters Les Baroudeurs du Sport. Pour lui, le foot, ça se vit et ça se fait ensemble. Mais pour éviter les débordements, il a prévu d'organiser des soirées spécifiques et encadrées.
Ça va être des bars, se retrouver, se donner des rendez-vous. C'est ce qu'on aime avant tout, c'est être ensemble.
Mais en cas de victoire ou pour les matchs décisifs, vous ne vous priverez pas d'aller dans la rue?
Oui, c'est ça. Pour les matchs à enjeu, je pense que bien sûr qu'il y aura la fête parce qu'on ne peut pas contrôler une foule qui est dans la passion, qui est dans la joie de la victoire. Pour la finale, c'est Champ de Mars et c'est fêté sur les Champs-Élysées, c'est obligatoire. C'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut être, c'est là que c'est historique.
Et puis alors, les autorités, elles sont plus confiantes sur l'ambiance qui va régner pendant le Mondial.
Oui, parce que la Coupe du Monde, c'est une dimension plus grande, nationale, qui réunit un public différent, bien plus familial que celui des clubs de foot, assure Yann Kadri, délégué départemental du syndicat UNSA Police à Paris.
Lorsque l'équipe nationale joue, je pense notamment à l'équipe de France, ça réunit vraiment de 7 à 77 ans, comme on dit, donc petits et grands. En plus, la France, on a de la chance, on a une belle équipe de France qui fait plutôt de beaux résultats. Donc généralement, il y a des belles célébrations qui s'en suivent.
Mais votre crainte, ça reste quand même les célébrations d'après-match?
Oui, parce qu'effectivement, souvent, lorsqu'il y a une victoire, il y a d'abord des scènes de joie, et c'est après, dès la tombée de la nuit ou un peu plus tard dans la nuit, que malheureusement, on voit souvent des scènes de pillage, d'affrontement ou autre. Et ça, effectivement, c'est ce que nous, fonctionnaires de police, on regrette, on déplore, bien évidemment.
Alors, certains matchs seront particulièrement scrutés, notamment ceux impliquant la France, l'Algérie ou encore le Maroc, d'autant qu'après avoir échangé avec des jeunes impliqués dans les violences post-Ligue des Champions, certains ont d'ores et déjà prévu de se regrouper dans la rue pendant la compétition. Alors, pour limiter les potentiels débordements, la ville de Clermont-Ferrand a déjà pris une mesure de couvre-feu pour les moins de 16 ans pendant toute la durée de la Coupe du Monde.
Merci Julie Brault, journaliste police-justice d'RMC.
RMC, le mondial de Virginie.
Avec le meilleur jingle de toute la bande FM. Rebonjour Virginie. La Coupe du Monde de foot ouvre donc dans 2 jours aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et vous nous dites, Virginie, que la France a déjà gagné.
Bah oui, pourquoi se priver? Bon, on va pas bouder notre plaisir, on chante notre première Marseillaise. Bon, vous inquiétez pas, je suis pas en train de dire que la France a déjà remporté le trophée. Je veux surtout pas porter la poisse, non. Ce qui fait que la France est déjà championne, c'est que c'est le pays le plus représenté dans la compétition. 99 joueurs nés en France vont participer. Ça va donc bien au-delà des Bleus de Didier Deschamps, des joueurs qui auraient pu porter les couleurs de la France. On en retrouve dans les équipes d'Algérie, d'Haïti, d'Espagne, du Qatar. C'est ça aussi l'esprit de la Coupe du Monde.
Alors sur le terrain, les Bleus n'ont pas encore gagné. Ça va pas être simple, hein, ce premier match contre le Sénégal.
Bah, surtout si l'on en croit le défenseur central du Sénégal, Kalidou Koulibaly. Il a dit dans l'after d'RMC que son équipe était la meilleure du monde sur le papier. Peut-être une petite réponse à Ryan Cherki qui veut écraser tout le monde avec les Bleus. Je crois que le match du 16 juin est déjà lancé. Et en plus, les joueurs sénégalais sont allés visiter le centre d'entraînement des basketteurs des Spurs de San Antonio hier. Oui, oui. L'équipe de Victor Wembanyama, on lui dit merci à Wemby, franchement. Bon, il faut dire que les Sénégalais étaient invités par leur ancien joueur Gorgui Dieng qui a intégré le staff des Spurs depuis la fin de sa carrière.
Et puis alors, les Bleus auront un autre adversaire de taille, la chaleur.
Alors vous allez peut-être me dire, bah oui, comme les autres, mais non. Plus que les autres. Oui, oui. D'après une étude de Bloomberg, la France sera la deuxième équipe la plus exposée à la chaleur pendant la phase de poule. Plus de 28 degrés en moyenne pendant les 3 premiers matchs. Les stades de New York, de Philadelphie et de Boston, où les Bleus vont jouer leur match de poule, ne sont pas équipés de la climatisation, contrairement à d'autres enceintes, plus une humidité très élevée. Si je prends l'exemple de l'Espagne, elle joue 2 fois à Atlanta dans un stade climatisé. Donc du coup, on critique beaucoup moins les pauses fraîcheurs, hein, tout de suite.
Alors par contre, Virginie, on a le droit encore de
critiquer le prix des billets.
Vous êtes prêt à débourser combien pour un match de poule pour cette Coupe du Monde? Le record, c'est pour Uruguay-Espagne. Dernier match du groupe H, 27 juin, 17 199 euros.
On va faire une cagnotte.
C'est ça.
Ça n'a aucun sens.
Pour l'équipe de France, le record pour la phase de poule, c'est France-Norvège, 26 juin, 5 767 euros. Si vous voulez moins cher, vous avez France-Irak, 980 euros. Là, c'est une bagatelle, vous pensez.
Bon. Et puis alors, encore une innovation pendant les hymnes pour cette Coupe du Monde.
Ça va se bousculer autour du rond central. Pour la première fois, les remplaçants seront aussi présents sur la pelouse. C'est-à-dire que chaque équipe peut présenter ses 26 joueurs. La FIFA appelle ça avec emphase une cérémonie à 360 degrés. Je crois qu'on peut dire tout simplement qu'ils vont être autour du cercle. Voilà. Ils tournent en rond.
Autour du rond central. Merci Virginie. La Coupe du Monde à suivre en intégralité sur RMC Radio officielle avec la Dream Team RMC. Il y a quand même 4 champions du monde dans cette Dream Team RMC Sport. Samuel Umtiti, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry et Lionel Charbonnier. Dans un instant, les GG. Alain Martel est déjà installé en place. Bonjour Alain, quel est le programme?
Dans les GG, dans les grandes gueules, on viendra sur cette colère des Français après la mort de Liana. On l'a entendu hier au forum BFM TV avec des Français qui ont dit au ministre de la Justice Gérald Darmanin, protégez-nous, sinon nous ferons justice nous-mêmes. Est-ce que ce sentiment est en train de monter dans la population? Oui ou non, vous venez en discuter avec nous. Le slogan de la France Insoumise, on est chez nous. Alors maintenant, c'est la bataille entre la France Insoumise et le Rassemblement National. À qui appartient le on est chez nous? Vous venez en parler avec nous au 32-16, bien sûr. Et puis on reparlera de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme, où la préfète et le maire de la ville disent couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans au moment de la Coupe du Monde. 32-16 pour en discuter avec les GG.